19h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, place au magazine politique Dialogue entre Congolais. Avec vous Alain Hirung à la présentation, bonsoir.
Bonsoir à tous et merci à Rémi Césaire Chamala. Deux thèmes dans l'émission de ce soir. Le premier nous conduira dans la province orientale, où au moins 800 personnes ont traversé la frontière vers le Sud-Soudan entre le 1er et le 6 juin dernier, fuyant des attaques des rebelles ougandais de la LRA dans le territoire de Faraje. Comment analyser ces attaques à répétition des LRA malgré l'opération des FARDC soutenue par la MONUC? Le deuxième thème se penchera sur la crise au sein du RCD où Azarias Rouberoy, président de ce parti, a été désavoué par 15 membres du collège des fondateurs le samedi dernier. Pendant qu'un autre groupe de 18 fondateurs lui a aujourd'hui renouvelé sa confiance, qu'est-ce qui est à la base de cette crise et quelles conséquences sur l'avenir du RCD? Pour le premier thème, nous recevons comme invité Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Moïse Nyarugabo, sénateur et membre du RCD, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Moïla Chiembe, analyste politique et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, il est aussi en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Un mouvement de population est enregistré depuis la semaine dernière en territoire de Faraje, district du Haut-Ouélé en province orientale. D'après des sources humanitaires, au moins 800 personnes ont traversé la frontière vers le Sud-Soudan entre le 1er et le 6 juin dernier. C'est suite à une attaque des rebelles de la LRA dans une localité située à 11 km d'Aba. Les détails dans ce reportage de Jacques Moukonkolé rendu par André Kitenge.
La localité est dénommée Roudou. Elle est située à 12 km d'Aba. Elle est complètement vidée de sa population, selon des informations recueillies auprès d'une source humanitaire à Dungu. Ceci après le meurtre d'une personne, à la suite d'une attaque des LRA dans cette localité le 5 juin dernier. D'autres déplacés sont venus de Faraje, où se déroulent d'intenses opérations militaires des FARDC contre les rebelles ougandais. D'après la même source, au moins 800 personnes ont déjà traversé la frontière pour se réfugier au Sud-Soudan, où se trouvent déjà au moins 17 000 autres déplacés venus de la République démocratique du Congo. D'autres personnes se sont déversées dans la cité d'Aba. Toujours selon la même source, un espace d'au moins 45 km n'est pas sécurisé par les militaires congolais entre Faraje et Aba. Aba est sous contrôle des militaires sous commandement de Dungu, alors que Aba est militairement supervisé par Bounia. Ces derniers ne seraient pas prêts pour intervenir dans une zone qui ne relève pas de leurs compétences, ce qui laisse un vide profitable aux LRA dans cette contrée. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Monsieur le ministre Lambert Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Comment expliquez-vous ces attaques à répétition des LRA alors que vous avez plusieurs fois affirmé sur nos antennes que ces rebelles ont été anéantis? C'est aussi la préoccupation d'Albert Olinga de Kindu Maniema.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anéantissement des LRA est un processus qui a commencé avec des opérations conjointes entre les Ougandais et nous, qui s'est poursuivi et se poursuit encore après le retour des Ougandais dans leur pays. Et comme je le dis, c'est un processus. Ce n'est pas un miracle que les FARDC sont allés accomplir là-bas. Elles font leur devoir. Vous avez bien suivi vous-même l'évaluation des responsables de la société civile qui ont parlé avec votre confrère. Ils parlent de 45 kilomètres qui ne sont pas bouclés. Je dois vous dire qu'il n'existe aucune armée au monde capable de boucler toute une frontière de plusieurs milliers de kilomètres. Donc nous avons positionné des troupes dans les zones les plus populeuses et ces bandits étrangers s'attaquent à des hameaux qui sont isolés, c'est le cas de Roudou notamment, et ce qui provoque des mouvements de panique. Vous savez, il est mort une personne et tout le monde part. C'est tout à fait normal. Nous aurions aimé effectivement qu'on améliore le système d'alerte pour qu'au lieu de fuir vers l'étranger, d'où vient d'ailleurs ce problème. Vous savez que nous sommes victimes de la détérioration très lente de la situation dans le Sud-Soudan et eux, ils fuient vers le Soudan alors que c'est de là que vient en réalité ce danger-là la LRA. Donc nous aurions aimé un peu plus de coordination entre les autorités locales, les forces armées, la police, pour que les gens sachent où est-ce qu'ils doivent aller chercher du secours.
Mais Monsieur le ministre Lambert Mende, le mardi dernier, dans le territoire d'Ango, il y a encore plus de 500 déplacés de Dakwa qui se sont rendus à Dingila, fuyant encore des attaques des LRA, et ils sont allés rejoindre un autre groupe d'environ 7850 personnes qui ont encore fui les attaques à Banda et Boeli dans le groupement Mompo, toujours en territoire d'Ango. Et hier, il y a les étudiants de Bouta qui ont manifesté, qui ont saccagé les bureaux de la MONUC, acte qui a évidemment été condamné par plusieurs personnalités, dont vous. Mais la population en a un peu assez. Qu'est-ce que concrètement le gouvernement pour soulager toutes ces populations?
Mais vous savez bien que la population en a assez, le gouvernement qui représente la population, beaucoup plus. Nous en avons assez également, c'est pourquoi nous avons déployé l'armée. Vous savez, l'armée n'est pas allée là-bas se promener, elle est allée pour taper sur ces bandits.
Mais apparemment, ça ne marche pas.
Parfois, ils réagissent parce qu'ils ne veulent pas qu'on tape sur eux. Et c'est ainsi qu'ils vont faire des représailles sur les populations. S'agissant de la réaction de ceux que vous appelez les étudiants, moi, ça m'étonne beaucoup que des étudiants qui sont des gens qui sont respectables, qui connaissent un peu les tenants et les aboutissants de toutes ces crises, se comportent comme cela. Notre pays est agressé. Les gens sont des agresseurs, la LRA. Et ce n'est pas en allant taper sur des gens qui viennent au secours des populations, que ce soit la MONUC, que ce soit les FARDC, qu'on va répondre à une agression. Une agression, ça aurait été que ces étudiants aient le courage, par exemple, de s'opposer à ces bandits armés étrangers qui viennent malmener leurs parents. Aller affaiblir comme ça
la solidarité
entre les FARDC, la MONUC ou la MONUC et la population, ce n'est pas la réponse appropriée. C'est réellement de l'irresponsabilité. C'est pourquoi le gouvernement a condamné cette attitude et c'est pourquoi nous avons chargé la police de rechercher les meneurs. Et je suis sûr que ce ne sont pas des étudiants.
Merci.
Ce sont des gens liés au LRA qui essaient de nous affaiblir en utilisant la crédulité de certains étudiants.
Merci, Monsieur le ministre. Sénateur Moïse Niarougaro.
Merci.
Nous vous gardons encore dans l'émission, hein, Monsieur le ministre, vous intervenez jusqu'à la fin de cette première partie. Sénateur Moïse Niarougaro, pour le ministre Lambert Mende, c'est un processus, mais il y a cet auditeur, Augustin Mwango de Kindo Maniema, il dit que les attaques répétées des LRA aussi bien que des FDLR sont la preuve de l'échec de l'option militaire prise par les autorités de la RDC.
Merci, monsieur le journaliste. Nous condamnons ces attaques d'abord et nous regrettons ces morts et ces déplacements de population. Que ce soit celles qui sont allées au Soudan ou celles qui sont allées à Dingila en train de fuir. C'est un spectacle désolant qui est devenu récurrent parce que nos populations à gauche à droite sont en train de fuir dans les forêts, fuyant ces rebelles ougandais ou alors dans le Kivu, le FDLR. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, on sait les voir, on les note, il n'y a pas longtemps, on a même félicité le gouvernement, en tout cas en ce qui concerne notre parti, nous avons félicité le gouvernement pour les opérations qu'il y avait eu, que ce soit dans la province orientale et dans la province du Kivu, ou du Nord-Kivu particulièrement, et la calmie qui s'en était suivie. Mais on se rend compte que les efforts n'ont pas suffi. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est comme si on s'est arrêté en chemin. Et je pense que le gouvernement doit faire un peu plus parce que le gouvernement ne doit pas continuer à constater, à se plaindre comme les citoyens.
Et pourquoi, d'après vous, ces efforts sont insuffisants?
Je pense que la première chose, nous sommes conscients que notre armée est encore en train d'être formée ou réformée. C'est vrai, donc on ne peut pas faire des miracles, un peu comme le ministre l'a dit. Mais un autre élément, c'est que moi je n'ai jamais cru que la MONUC va aller faire des opérations dans ces forêts, aller suivre les LRA ou les FDLR dans les forêts.
La MONUC,
je ne crois pas. Justement, si déjà notre armée n'est pas suffisamment formée ou réformée pour bien faire les opérations, la MONUC n'est là que pour soutenir. Donc,
si déjà on soutient quelque chose qui n'est pas aussi suffisamment bien préparé, donc c'est normal que les opérations, on ait l'impression que ça ne marche pas beaucoup. C'est en fait pour cela qu'on demande au gouvernement d'imaginer toutes sortes de solutions, que ce soit au niveau de notre armée ou d'autres solutions. Je pense que le gouvernement est là pour ça.
Et qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui pense que l'option militaire prise par les autorités était la mauvaise?
Non, à mon avis, je pense qu'on n'avait pas de choix. Est-ce que le gouvernement aurait laissé les Interahamwe et les LRA continuer à se promener et continuer à faire ce qu'ils faisaient? Je ne pense pas que c'était la mauvaise décision de procéder aux opérations militaires. Moi, par contre, je pense que le gouvernement a commis l'erreur de prendre une bonne décision, un bon principe que nous avons félicité, mais de s'être arrêté en chemin. Par exemple, pour le Nord-Kivu, pourquoi on a donné à l'armée rwandaise 15 jours, 20 jours, 28 jours? Pourquoi on a donné à l'armée ougandaise, c'est pas moi, un mois ou deux mois? Pourquoi ne pas leur donner 3 mois et 6 mois, faire l'opération correctement, aller jusqu'au bout? Parce que quand on a décidé qu'ils partent, ils sont partis. Et si on leur avait donné suffisamment de temps, ils auraient fait l'opération proprement jusqu'au bout, sous le contrôle de notre armée, de notre gouvernement, et à la fin, ils partiraient.
Professeur Maïa Chiembe, pour le sénateur Nyarugabo, le gouvernement fait des efforts, mais qui sont insuffisants. Qu'est-ce que vous répondez à ce niveau du débat? Il y a Apollinaire de Bounia dans la province orientale qui demande si la LRA a des armes beaucoup plus sophistiquées que la MONUC et les phares des filles, ou c'est une question de tactique ou de motivation?
Ben, disons que le ministre a raison, même le sénateur aussi. C'est-à-dire que il était inacceptable que le gouvernement congolais reste les bras croisés devant les événements de ces rebelles qui s'en prennent à des populations congolaises innocentes et qui non seulement tuent, massacrent, violent et contraignent certaines populations à la fuite comme ceux dont vous venez de parler. Mais seulement le fait qu'il faut reconnaître que, indépendamment de la volonté du gouvernement, que personne ne conteste ou ne remet en cause, il n'y a pas encore l'outil militaire opérationnel et dissuasif, c'est-à-dire l'armée républicaine dont on a tant parlé.
Mais pourquoi, professeur Maïla, mais pourquoi s'engager sur une option militaire quand on sait qu'on n'a pas les moyens de sa politique?
Mais évidemment, il y a des pressions internes. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter que ces populations soient massacrées, vilipendées, violées et restées bras croisés. Donc il y a un sentiment légitime du gouvernement congolais, même si son armée n'est encore au point, d'utiliser tant que faire se peut les moyens disponibles pour montrer que le gouvernement existe, que l'armée est en gestation, mais qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Mais seulement, la question que vous posez, sa signification, c'est est-ce que la solution militaire est une solution appropriée? Pour l'instant, au regard de ce que nous sommes en train de constater, notamment pour la crise concernant le nord de la République, au regard de l'Ouganda, la communauté internationale n'a pas pu faire de pression suffisante sur le président Museveni pour lui faire comprendre que même si le gouvernement congolais réagit parce que ce sont les Congolais qui sont les premières victimes, ben il y a la responsabilité du gouvernement ougandais de rechercher une solution politique. Or, cette question de recherche de solution politique, ce n'est pas une question congolaise. Le Congo, à son corps défendant, est obligé d'utiliser le peu de moyens disponibles pour défendre sa population, même si cela n'est pas suffisant, mais la responsabilité réelle est celle du gouvernement rwandais, de la communauté internationale, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout sur les pressions concernant les rebelles et le gouvernement ougandais, de telle manière que l'accord de paix qui était déjà engagé soit finalisé au meilleur des intérêts, non seulement de la sécurité à la frontière du Congo, mais également à la paix à l'intérieur même de l'Ouganda. Cette solution n'a jamais été envisagée. Et puis, en ce qui concerne les autres, le sénateur parlait de la situation du Kivu, on est là dans la même hypothèse. Il est vrai que le gouvernement congolais a bien fait d'engager les hostilités contre les Interahamwe et les autres, mais la solution ultime est une solution politique qui engage le Rwanda vis-à-vis de ses citoyens qui ne sont pas des citoyens congolais.
Merci, professeur.
Or, l'absence de visibilité sur cette question amène le Congo dans l'impasse pour le Congo use la force, mais qui n'est pas encore suffisante, pour répondre à une question essentiellement politique.
Monsieur le ministre Lambert Mende, pour le professeur Mwai, là, la responsabilité réelle incombe au gouvernement ougandais, et le sénateur Moïse Nyarugabo se demande pourquoi on n'a pas, le gouvernement congolais n'a-t-il pas donné un peu plus de temps à l'armée ougandaise.
Je voudrais d'abord faire un petit coucou au sénateur Nyarugabo et au professeur Moïla Tiembe.
Le sénateur sourit.
En ce qui concerne la remarque du professeur Moïla, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les origines de cette crise sont effectivement à rechercher dans les interactions politiques internes au niveau de nos voisins. Nous avons un principe de ne pas nous immiscer dans les affaires intérieures de nos voisins, même si dans les instances régionales, continentales, ou même au niveau des Nations Unies, nous conseillons fermement à nos voisins d'apporter des solutions globales à ces problèmes qui débordent de leurs frontières et viennent perturber notre quiétude ici dans notre pays. Pour ce qui est de la remarque de l'honorable sénateur Nyarugabo, si vous voulez bien me la rappeler, s'il vous plaît.
Il demande pourquoi le gouvernement congolais n'a-t-il pas accordé un peu plus de temps, 3 mois, voire 6 mois, à l'armée ougandaise pour mettre à profit cette opération.
Avec notre armée. C'est vrai
que si nous avions eu beaucoup plus de temps avec ces deux opérations conjointes, les résultats seraient probablement meilleurs militairement
que ceux qu'ils sont
aujourd'hui.
Mais pourquoi?
Les sénateurs, vous-même et tous les auditeurs savent très bien à quelle pression interne le gouvernement a été soumis. Nous sommes un gouvernement démocratique. Nous ne travaillons pas en vase clos, nous ne sommes pas dans une bulle. Nous subissons les poids, les contrepoids de notre propre opinion. Vous avez vu que nous avons même frôlé des crises institutionnelles. À cause de cela, il nous a fallu en tenir compte et en toute responsabilité. Nous avons voulu limiter dans le temps l'appui que nous avons requis à nos voisins pour résoudre un problème qui les concernait aussi. Nous avons quand même enregistré des avancées majeures dans la répression de ce banditisme, même si les gens ne le constatent pas, mais la présence de nos voisins nous a aidés. Nous continuons peut-être à avancer plus lentement que nous l'aurions fait s'ils avaient été là, et nous n'avons pas exclu. Si les choses arrivaient à se gâter au-delà de ce que nous pourrions contrôler, de recourir à nouveau à cette collaboration, à cette
synergie
qui a été dessinée dans le plan que nous avons mis en place à Nairobi et qui avait été approuvé à la ratification par l'Assemblée nationale.
Ce
sont des perspectives qui restent ouvertes. Je pense que le sénateur a raison.
Merci, monsieur le ministre. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs pour cette première partie et nous allons pouvoir libérer le ministre Lambert Mende. Il y a Augustin Mwango de Kindu au Maniema qui pense que le moment choisi par ces 15... Pardonnez-moi, je suis allé vite en besoin, j'ai pris votre réaction. Michel Magboko de Kinshasa, étudiant à l'Université protestante au Congo, aimerait savoir quelles garanties ou protections le gouvernement congolais accorde à la population qui se déplace vers le sud, car nous savons aussi que dans cette partie, la paix n'est pas assurée. Pour Jean-Pierre Ngoy de Kinshasa, la vérité est têtue, que le ministre nous dise ce qui se passe réellement avec les LRA quand ils étaient traqués, où étaient-ils partis, en Ouganda ou au Soudan, n'est-ce pas sur notre sol où ils sont restés? La négociation est le seul moyen pour faire taire les armes. Nos frères meurent gratuitement, épargnons-les. Monsieur le ministre, vous allez lui répondre, sénateur Moïse Nyarugabo, votre lecture par rapport à ces réactions des auditeurs pour clôturer cette première partie.
Disons, je pense que nous tous, comme ceux qui posent des questions, nous nous interrogeons, nous nous inquiétons. Et c'est pour cela que nous disons qu'effectivement, ceux qui continuent à mourir ne devraient pas mourir. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de prendre des mesures. Et moi, quand je demande au gouvernement de prendre des mesures, c'est inclus des mesures de coopération, d'utiliser toutes les forces pour sauver les vies de nos populations. C'est inquiétant si chaque matin, Radio Capi ou toutes les autres presses nous disent autant de morts, autant de fuites, autant... Je crois qu'il faut qu'on trouve une solution. S'il faut qu'on fasse une autre opération de 3 mois, pour moi, le gouvernement doit assumer.
Il
doit assumer.
Monsieur le ministre, professeur Moïla Tiembe, votre réaction par rapport à ce que les auditeurs ont dit.
Évidemment, les auditeurs disent ce que tous les Congolais pourraient dire normalement, devant ces situations macabres de mort, de violence, de fuite. Évidemment, on reste toujours devant la même difficulté. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut bien faire aujourd'hui qui serait, une décision qui changerait la donne? Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais n'a pas toutes les cartes dans les mains. Bien sûr, il tente avec les moyens du bord de se unir au secours de ses propres populations. Mais la clé de la situation ou de la solution ne se trouve pas du côté congolais. Les Congolais doivent être conscients du fait qu'il y a le gouvernement qui essaie de réagir avec les moyens limités dans la situation que l'on sait, mais la solution finale ne dépend pas de la République démocratique du Congo.
Monsieur le ministre Lambert Mende, avant de vous libérer, une réaction par rapport à ce qu'ont dit les auditeurs, et qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement à toutes ces populations qui sont déplacées, qui fuient par-ci, par-là, et qui attendent quelque chose du gouvernement congolais?
Je pense que la première chose, et là je répondrai à la première préoccupation de votre auditeur, c'est que les populations, lorsqu'elles se trouvent en face à ces bandits, doivent faire l'effort de se diriger là où il y a des concentrations de nos forces armées et de la MONUC au Congo. Nous ne conseillons pas du tout à nos populations de sortir du territoire national, parce qu'il est difficile pour le gouvernement de s'occuper des compatriotes qui sont à l'étranger. Par contre, là où se trouvent nos militaires, et ils sont déployés maintenant dans toutes les grandes agglomérations, on est sûr de pouvoir leur garantir la sécurité, et avec la MONUC, nous avons un programme aussi d'assistance humanitaire qui peut très rapidement être mis en place. Il y a eu un autre auditeur qui s'est inquiété du fait que, apparemment, les gens de la LRA qu'on avait chassés du parc national ne se seraient pas rendus au Sud-Soudan, comme nous le disions, ou en Ouganda.
Oui, ils seraient restés au Congo.
Je pense qu'il faut maîtriser l'information. Nous parlons ici des éléments résiduels. La LRA, lorsque nous entamons les opérations conjointes, c'est 4 000 à 5 000 hommes. La LRA aujourd'hui, ceux qui écument les villages, c'est une petite bande qui ne dépasse pas 200 personnes.
Mais qui fait beaucoup de ravages.
Donc, c'est une partie rentrée en Ouganda et une autre partie a traversé vers le Centrafrique et vers le Sud-Soudan.
Merci.
Donc, ce sont des éléments qui ne sont plus aussi nombreux, aussi armés que ceux auxquels nous nous sommes affrontés il y a quelques mois. Et donc, il y a eu une évolution quand même en termes quantitatifs de leur capacité de nuisance qui a été sérieusement entamée.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Lambert Mende, d'avoir accepté de participer à cette première partie de notre émission. Nous allons vous libérer pour passer à la deuxième partie. Nous gardons le professeur Moïla et le sénateur Moïse Nyarugabo. Le temps d'avoir Herman Kambale, président fédéral du RCD Nord Kivu. J'espère qu'il est déjà en ligne. La réalisation me fait signe que pas encore, mais nous allons prendre notre deuxième thème. Il porte sur la crise au sein du RCD, où Azarias Roubéroy, président de ce parti, a été désavoué en cette qualité dans une déclaration politique rendue publique samedi dernier à Kinshasa. 15 membres du collège des fondateurs du RCD ont décidé de démettre leur président de son poste. Azarias Roubéroy est accusé par ces derniers, notamment, de concentrer tous les pouvoirs autour de sa personne, de mauvaise gestion des ressources humaines, matérielles et financières du parti, de l'immobilisme dans l'animation des fédérations et d'incapacité de gérer politiquement la période post-électorale. Les 15 membres signataires de cette déclaration ont du coup mis sur pied un comité de crise présidé par Trésor Kapoukou, chargé notamment de la gestion quotidienne du parti. Pour Azarias Roubéroy, cette décision, qui n'émane pas du trois quarts des membres que compose le collège des fondateurs du RCD, viole le statut du parti. Par conséquent, elle n'a aucun effet. D'ailleurs, Azarias Roubéroy l'a encore rappelé ce matin devant un autre groupe de 18 fondateurs qui lui ont renouvelé leur confiance. Ces derniers ont même invité leurs collègues à revenir à la raison. Herman Kambale, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président fédéral du RCD Nord Kivu et vous êtes
pour ceux qui ont désavoué le président Azarias Rouberoy. Vous avez affirmé aujourd'hui, après une longue réunion tenue à l'hôtel et aussi à Goma, que ces changements ont pour but de permettre au RCD d'aborder les échéances électorales de manière sereine. Comment expliquez-vous cela?
Ok, merci pour toutes ces questions que vous me posez. Je crois savoir que, en fait, la position des membres fondateurs du parti qui ont signé une pétition à Kinshasa nous a donné l'occasion, nous de fédération, nous de l'intérieur, de nous exprimer réellement. Lorsque l'on sait que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, nous estimons que ce n'est pas dans l'inertie qu'on peut conquérir le pouvoir. Oui, allô?
Oui, allez-y, vous êtes en ligne, donc vous voulez parler là de l'incapacité de gérer la période post-électorale.
Ok, merci de vous me suivez. Le parti, sans aucune instruction, sans aucune orientation politique au sommet, donc du sommet vers la base, si bien que nous évoluons totalement à vase clos. Il n'y a pas de communication. Le secrétaire général ne communique pas avec les fédérations. Je vais vous faire rire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la crise qui se vit aujourd'hui au sein de notre parti, nous apprenons cela par la radio comme les commets des mortels, alors que la logique politique aurait souhaité que ce soit le secrétaire général qui nous communique et qui nous dit aussi la position à suivre par rapport à tous ces événements.
Sénateur Moïse Nyarugabo, vous êtes contre la déclaration des avouants Azarias Rouberoy. On reproche une certaine inertie, un manque de communication, l'incapacité de gérer la période post-électorale. Comment vous réagissez?
D'abord, je vais commencer par dire que ce qui se conçoit bien, s'énonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Vous comprenez la difficulté que l'autre a pour dire ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent.
Mais c'est clair.
Laissez-moi vous parler.
Pour le problème de gestion du personnel.
Attendez, c'est clair. Vous n'allez pas parler à sa place. Vous lui avez posé la question. Il ne sait pas ce qui se passe. Monsieur Moussavouli, je vais me faire le devoir de vous informer aussi. Écoutez, deux choses à dire. La première, on dit qu'il y a concentration de tous les pouvoirs entre ses mains. Il n'exerce aucun pouvoir qui n'est pas dans les statuts. Tous les pouvoirs qu'il exerce sont dans les statuts signés par tous les signataires de la déclaration, la fameuse déclaration, notariés par l'un d'entre eux. C'est l'un d'entre eux qui est allé notarier ce statut-là, qui donne ce pouvoir à Rouberoy. C'est dans ce statut qu'il y a le mandat de Rouberoy de 5 ans, qui expire dans 2 ans. Ce sont ces signataires qui lui ont donné ce mandat et qui ont voté pour lui. Et donc, écoutez, maintenant aujourd'hui, ils se réveillent et vous voulez dire qu'on les a hypnotisés lorsqu'on a conçu les statuts, lorsqu'ils les ont signés?
Et qui ont appris vous les véritables
donc,
causes?
Donc, je vais vous dire.
Quelles sont les véritables causes?
Je vais d'abord vous donner un deuxième élément.
Rapidement.
Alors. La décision qu'ils ont prise, c'est effectivement une décision qui n'a aucun sens. 15 membres fondateurs sur 45 s'enferment dans une résidence d'un camarade, écrivent une déclaration. Ils disent que pour nous, Rouberoy n'est plus président. Alors, que deviennent les 30 autres membres fondateurs, dont 18 se sont réunis ce matin et ils ont dit, nous, pour nous, Rouberoy est président et il le reste jusqu'à la fin de son mandat.
Alors, ça nous l'avons déjà dit.
En quoi la volonté de 15 prime sur les 18 et sur tous les autres et sur tout le parti? Nul.
Alors, dites-nous quelles sont les vraies causes d'après vous?
Les vraies causes, il faut les demander aux signataires de la déclaration. Ce qu'ils ont écrit, ce sont des prétextes, ce sont des alibis. Eux-mêmes, au fond de leur conscience, ils savent que c'est faux. L'opinion sait que c'est faux. On peut accuser Rouberoy aujourd'hui d'incompétence, de vol, de détournement, de quoi? Quand il était vice-président, on ne l'a jamais accusé, même pas d'un seul sou, d'une commission, jamais. C'est ORCD, il va voler quoi? On l'accuse de n'avoir pas réuni beaucoup d'argent au parti. C'est parce qu'on a refusé de voler. On pouvait voler comme tout le monde, on serait riche, le parti serait riche. Mais parce qu'on tient aux valeurs et à l'intégrité, on n'a pas volé. Alors maintenant, si on dit que le parti n'a pas beaucoup d'argent,
C'est un des problèmes qu'on lui reproche. Et maintenant, on dit qu'il a volé quoi? Donc, je voulais vous dire, messieurs, nous sommes en train d'approcher le remaniement. Il semble qu'il y ait un remaniement en vue. Moi, je ne le sais pas. C'est ce que j'apprends. Alors, il semble que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent s'accaparer des directions des partis pour s'auto-désigner et participer au gouvernement. Si tel est le cas, nous leur disons qu'ils peuvent aller calmement sans créer du désordre. Et nous disons aussi,
rapidement,
nous disons aussi que rien n'est perdu. Nous sommes un parti politique. Nous tenons au respect de nos règles et de nos statuts et de nos textes. Nous demandons à tout le monde de revenir à la raison, qu'on mette les problèmes sur la table, qu'on en parle, qu'on discute. Il est possible de trouver des solutions.
Professeur Moïla, avant de vous donner la parole, revenons à vous, Herman Kambale. D'après le sénateur Moïse Nyarugabo, vous qui soutenez ceux qui ont désavoué le président Roubaix-Roi, c'est pour entrer dans le gouvernement à cause du remaniement ministériel qui s'annonce ici là.
Oh non. Loin de là, je ne suis pas informé de tout ce que monsieur l'honorable Moïse Nyarugabo est en train de dire. Mais moi, ce que je retiens, c'est ceci. D'abord, je voudrais faire remarquer à mon ancien collègue, Moïse Nyarugabo, que si j'ai parlé d'Albici au début, c'était parce que je pensais que je n'étais pas en ligne. Ceci dit, je voudrais informer à ceux qui peuvent me suivre que la formation politique doit partir de la base. Lorsqu'on s'enferme dans une chambre à Kinshasa et qu'on s'appelle membre fondateur pour imposer son point de vue sur l'ensemble des membres du parti et croire que dans les fédérations, le tout va bien, c'est le fruit de l'imagination.
Mais
rien ne va.
Herman,
il y a inertie.
Herman Kambale,
oui.
Vous avez déjà parlé de l'inertie, mais 15 membres signataires sur 40, pensez-vous que cette démarche est légale? Pourquoi ceux qui ont mené la démarche n'ont-ils pas utilisé les canaux prévus dans le statut du parti?
Écoutez, d'abord, je ne suis pas membre fondateur, c'est ce que je voulais dénoncer. Je voulais dénoncer en fait une sorte de dictature imposée sur les membres du parti par ce collège de fondateurs. Hein, et vous m'avez arrêté lorsque j'étais entré, l'équipe expliquait.
Terminez alors rapidement votre idée.
Nous avons en fait saisi la balle au bon lorsque les membres ont signé cette pétition pour que nous puissions nous exprimer et donner notre point de vue en faveur d'un changement à l'exécutif national du parti. Il faut un changement. Il y a inertie, il y a immobilisme, il y a manque d'imagination. Hein. Comment voulez-vous expliquer que, par exemple, nous puissions passer toute une année sans que le secrétaire général ne communique avec la fédération, sans qu'on nous demande ce qui se passe ici. Tout ce que nous suivons en rapport avec notre parti, en rapport avec notre parti, c'est par la radio, par la voix des médias.
Mais
cela n'est pas normal lorsque nous savons, par exemple, qu'il y a une question d'actualité et que le point de vue de la formation politique devait être communiqué aux membres. Mais il y a un risque qu'il y ait cacophonie puisque nous n'avons pas une orientation claire de notre formation politique. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je soutiens le changement. Et je me dis que ceux qui sont là, s'ils pensent que nous qui sommes à la fédération, nous applaudissons ce qu'ils font, ce qu'ils s'enferment en train de décider et s'appeler membre fondateur. Après, il y aurait erreur et mauvaise estimation.
Vous faites sourire le sénateur Moïse Nyarugabo avant de lui donner la parole. Professeur Moïla Tiembe, vous avez suivi les deux camps. Peut-on dire que le RCD, jadis mouvement militaire, a raté sa reconversion politique aujourd'hui?
Mais disons que la question principale qui se pose, à la fois au regard du RCD et de l'ensemble des partis qui sont la résultante des mouvements politico-militaires, la question c'est, est-ce que les mouvements qui ont utilisé la force pour arriver au pouvoir, est-ce que ces mouvements aujourd'hui, après la transition, après les élections, est-ce que ces mouvements ont acquis la culture démocratique pour pouvoir se comporter comme se comportent les autres partis normalement constitués?
Et comment vous
lorsqu'on
répondez
écoute, évidemment, lorsqu'on écoute l'échange que nous venons d'avoir, ou que viennent d'avoir, et le sénateur et son contradicteur, partant du principe qu'il y a immobilisme, il y a incapacité. Mais que prévoit le statut du parti? Parce que dans toutes choses étant égales par ailleurs, même si on a des revendications légitimes à formuler, à tout le moins, on va regarder le statut du parti. Que disent les statuts? Est-ce que M. Roubaix-Roy, par rapport à ce qu'on lui reproche, est-ce qu'il a violé les statuts? Est-ce que ceux qui l'incriminent aujourd'hui l'incriminent-ils parce qu'ils violent les statuts ou bien parce qu'ils ont autre chose à lui reprocher? Donc, autrement dit, on a là, à peu de choses près à ce qu'on a vécu il y a quelques mois au PPRD AMP à propos des Camerounais. Ces partis politico-militaires continuent-ils à utiliser des stratégies proprement militaires, de type putschiste, ou bien de menaces sur leurs dirigeants en matière de leadership, ou bien est-ce qu'ils sont des partis normalement constitués, qui respectent leur statut et qui respectent la culture démocratique? Bon, jusqu'à présent, on n'en a pas la preuve au regard des événements tout à fait regrettables auxquels nous sommes en train d'assister.
Donc, si je vous comprends, le RCD a raté sa reconversion politique.
Ben, je ne sais pas si elle l'a totalement raté, mais en tout cas, le spectacle que le RCD est en train d'offrir, après le spectacle de PPRD-AMP à propos des Camerounais, laisse entrevoir que tous les observateurs se demandent si réellement ces partis politico-militaires ont acquis la culture démocratique ou sont-ils encore dans les stratégies militaires d'accusation à la porte-pièce, des mesures de pression ou des tentatives de révocation, alors qu'il y a des statuts. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas, on ne respecte pas la règle que ces mêmes partis se sont donnés? Monsieur le sénateur l'a rappelé tout à l'heure.
Merci.
Si Roubaix-Roy a fauté, pourquoi ne pas appliquer les statuts?
Merci, professeur. Sénateur Moïse Nyarougabo, en parlant d'inertie au niveau du RCD, le gouverneur Trésor Kapoukou, Déon Kousselou, ont été élus grâce à l'alliance avec l'ANP. Pour le ministre de l'Agriculture, Norbert Basengezi, le président Roubaix-Roy avait promis des sanctions en son endroit, avec des mandataires comme Déoro Guiza, Lofida, Emile Ngoy, Alozé Frem. Finalement, le RCD, il est dans l'opposition, il est dans la majorité. N'est-ce pas cette léthargie ou ce flou qui est reproché à Zaria?
Vous avez posé beaucoup de questions, vous permettrez que je réponde à toutes ces questions. La première,
rapidement alors.
Je suis d'accord avec le professeur lorsqu'il dit que je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il estime que lorsqu'il y a des problèmes, c'est parce qu'on a raté la reconversion. C'est faux parce que même dans les pays les plus démocratiques, comme en France, qui n'a pas assisté aux problèmes au Parti Socialiste. Et on veut dire que là aussi c'était un parti ex-mouvement militaire? Non. Donc les problèmes, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et la valeur des leaders, c'est de comment ils parviennent à gérer des crises. Mais les crises, il y en aura toujours. C'est la première chose. La deuxième, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que lorsqu'il y a des problèmes, il faut revenir au texte, au statut, et régler les problèmes en fonction de ce que disent les statuts. Les statuts disent que pour prendre une décision, le collège des fondateurs décide à la majorité de 2/3. Et les 2/3 du collège des fondateurs du RCD, c'est 30 personnes. Ceux qui ont signé sont à 15. Je pense qu'il n'y a pas, on ne doit pas y revenir. C'est aussi clair que l'autre.
Donc c'est illégal. Passez à l'autre point.
Illégal, c'est petit, il faut trouver mieux. Je voulais dire à M. Herman Kambalé, il a dit que lui n'est pas membre fondateur. Et qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce débat? Parce que ce débat porte sur le collège de fondation. S'il n'a même pas d'informations sur le collège, il aurait dû s'abstenir.
Il dit que la base a choisi la balle au bon.
Et justement, je veux dire, il dit que la formation politique part de la base. Que le collège des fondateurs s'enferme à Kinshasa. Et donc, il s'attaque au collège des fondateurs. Il aurait dû commencer par s'attaquer aux membres du collège des fondateurs, les 15 là qui ont signé. Il aurait commencé par eux. Et c'est un d'entre eux qui est passé par Goma hier, qui lui a demandé de faire la déclaration. Il sait que je dis la vérité. Herman ne peut pas me démentir. Il sait que je dis la vérité. Un des signataires est passé par Goma hier. Il lui a demandé de faire la déclaration. Il a fait la déclaration aujourd'hui, mais aujourd'hui, il s'attaque à tous les collègues de fondateurs. Donc, il aurait dû commencer par le 15. Et la dernière chose.
Rapidement, sénateur.
On parle de l'inertie. Le samedi dernier, lorsque les 15 camarades sont venus créer des troubles au parti, nous étions en pleine cérémonie en train d'installer les 4 fédérations de Kinshasa et la Ligue des Femmes et la Ligue de la Jeunesse.
La base, donc.
Il y avait une cérémonie et il y avait au moins 1 millier de représentants de la base qui étaient là en pleine fête.
Donc, pour dire que nous venons de commencer des activités, il y a un plan, on va faire la même chose pour toutes les provinces. Le plan existe et le comité exécutif l'a déjà décidé. Et les camarades le savent. Et tous les autres partis politiques, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé à faire les activités depuis les élections. Le PPRD a commencé quand pour sortir dans les communes ou dans les provinces. Le MLC vient de commencer il y a deux semaines. On a vu à Canada et à Mbujimaï. Donc, quand on parle de l'inertie, après les élections, tous les partis, allez à l'Afrique du Sud aujourd'hui. Vous n'allez pas voir des meetings. Allez en France. Avant les élections ou après les élections, il y a une attitude qui est normale, naturelle pour tous les partis politiques.
Donnez l'occasion à Herman Kambale de vous répondre. Herman Kambale, pourquoi vous êtes allié à un groupe qui, selon le sénateur Nyarugabo, a agi illégalement? Vous n'avez pas, vous, en tant que base, d'autres moyens pour revendiquer ces droits?
Bon, écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même informer, l'honorable Moïse Nyarugabo, que je respecte beaucoup, que Radio Okapi n'est pas le lieu le mieux indiqué pour communiquer avec la fédération. Il aurait pu utiliser d'autres canaux reconnus pour communiquer avec nous.
En tout cas, c'est pas moi qui vous ai invité, c'est pas moi qui vous ai invité.
Mais
les deux parties,
vous avez posé la question de savoir. Quelle a été notre réaction par rapport à...
Pourquoi vous n'avez pas utilisé des voies légales prévues dans le statut? Je disais à Herman Kambale, pourquoi vous n'avez pas, vous, en tant que base, utilisé les canaux prévus dans le statut? Je vous repose la question.
Mais les 15 membres fondateurs nous ont donné l'occasion de nous exprimer, je crois l'avoir dit au début.
Mais le sénateur Nyarugabo vient de dire que ce n'est pas légal.
Nous sommes totalement asphyxiés lorsque nous savons que les échéances électorales approchent et que nous n'avons aucun briefing. Nous n'avons aucune orientation par rapport à la stratégie arrêtée pour que nous puissions gagner ces élections. C'est tout à fait décevant. Et cela inquiète. Et moi, je vous dis que ceux qui ont écrit la pétition nous mettent sur une voie qui nous permet... Qui permet aux membres fondateurs ou à l'exécutif national de se remettre en question et de se poser et de se dire mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si nous devons conquérir le pouvoir, ce n'est pas dans l'inertie, ce n'est pas dans l'immobilisme, ce n'est pas en oubliant totalement la base qui constitue les fédérations. Voilà un peu comment nous pouvons qualifier.
Il y a aussi le président du RCD au Kasaï occidental qui réagit favorablement à la nomination du gouverneur Trésor Kapuku comme président national du comité de crise par le parti. Nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement, il nous reste 4 minutes. Sénateur Moïse Nyarugabo, comment vous entrevoyez l'avenir du RCD dans ce climat?
Non, nous demandons à tous les camarades d'arrêter ce spectacle désolant. Le président fédéral Kasaï occidental soutient la nomination de Trésor Kapuku. La nomination par qui? La nomination dans quel cadre?
Par lesquels?
La nomination pour faire quoi?
Il nous reste 3 minutes, sénateur.
Non, je vais juste vous dire rapidement. La fédération du Sud Kivu, elle, ce n'est pas le président fédéral comme celui du Kasaï occidental qui s'est prononcé. Elle s'est réunie. Elle a dit on ne reconnaît pas ce fou.
Alors comment?
Dans beaucoup d'autres
rapports, c'est la même chose. Répondez par rapport à
la réponse. Je vais la donner.
Rapidement, il nous reste 3 minutes.
Je ne pose pas les questions.
Allez-y rapidement.
La réponse se trouve dans la réconciliation. La réponse se trouve dans les normes et les textes du RCD. Nous demandons à tout le monde d'arrêter l'âge de guerre. Ceux qui sont sortis du parti pour faire des déclarations en dehors des institutions et des organes du parti, qu'ils reviennent au parti, qu'ils reviennent dans les organes. On va se réunir, on va discuter et on va trouver des solutions. Il y a eu des crises plus graves que celle-ci, on a survécu. D'autres partis politiques ont connu des crises, ils
ont
raison de
vous en appeler à la réconciliation.
C'est dans l'harmonie.
Dans la réconciliation. Herman Kambale, votre conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir du RCD dans ce climat? Les sénateurs vous appellent à la réconciliation.
Rapidement, il nous reste que le parti soit redynamisé et que toutes les activités reprennent comme un parti qui voudrait conquérir le pouvoir. Je voudrais aussi dire que ce ne sont pas les textes qui nous feront conquérir le pouvoir, mais le dynamisme du parti et la bonne orientation, la communication sincère avec... le comité exécutif national.
Donc vous êtes pour la réconciliation aussi. Vous êtes pour la réconciliation aussi. Professeur
Moïse, la réconciliation peut faire l'objet d'un débat, mais ici je voudrais.
Merci. Professeur Moïla, nous allons terminer par vous. Votre conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir du RCD en 20 secondes?
Oui, il faut souhaiter qu'il y ait réconciliation entre les membres du RCD afin de créer les conditions permettant au moins une opposition par rapport aux échéances futures. Que se passerait-il dans ce pays si, à la majorité présidentielle actuelle, il y avait en face un cimetière, les opposants qui se tirent dessus, qui se déchirent.
Merci, professeur. Nous remercions tous les auditeurs qui sont très nombreux et qui nous ont écrit. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers invités. Jean-Claude Ncial a été à la technique, réalisation de Guy Maté, Kevin Couté, Samuel Kachak, coordination de Martin Sebujangwe, Alain Hiroux devant ses micros. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Okapi, okapi.